Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans la JT du local. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 19 janvier. Je suis ravie de vous accueillir dans cette émission autour de l'actualité en Mayenne. Et forcément aujourd'hui ce qui fait l'actualité c'est bien la grève contre la réforme des retraites. On va en parler dans cette émission avec Martine Hamelin, déléguée CGT, qui sera en direct du cortège parti de Laval avec nous d'ici quelques instants. On va aussi parler boxe féminine avec un créneau 100% féminin proposé par un club de boxe de Saint-Berthevin. On verra pourquoi c'est important pour ces femmes justement et bien d'avoir ce moment à elles une fois par semaine pour extérioriser plein de choses et faire du sport aussi tout simplement. Et puis comme chaque jeudi, on va découvrir le nouveau reportage Pensée locale réalisé aujourd'hui à l'Île-Dieu autour d'un projet au fil de l'eau que vous découvrirez, ça ce sera plutôt en fin d'émission. Mais d'abord, on fait un point sur l'actualité, donc avec ce jeudi noir pour la mobilisation contre la réforme des retraites, partout en France et en Mayenne, avec un rassemblement unique à Laval. Rassemblement qui était prévu à partir de 11h place de la Trémoille, justement, toujours à Laval. Le cortège qui semble être parti vers midi et on fera le point d'ici quelques minutes avec Martine Hamelin de la CGT 53 en direct de ce cortège. Ce jeudi aussi, beaucoup d'écoles étaient fermées complètement, une cincantaine selon le syndicat SNUDI FO 53 et une centaine d'entre elles sont impactées. Difficile aussi de circuler dans les transports à la en ce moment justement par rapport au parcours de la manifestation, mais aussi dans les gares SNCF, c'était compliqué, c'était annoncé d'ailleurs, avec très peu de TER, de trains régionaux en circulation et aucun entre Laval et Rennes notamment. Le trafic aussi compliqué entre Laval et Le Mans. Après la neige, le verglas ce matin sur la départementale 31 entre Laval et Ernée. La circulation était difficile à cause du verglas. Une voiture s'est notamment retrouvée sur le toit au niveau de la Baconnière. Hier, plusieurs voitures et poids lourds s'étaient déjà retrouvés bloqués par la neige en travers de la route. Le groupe Lactalis risque une mise en examen pour l'affaire du lait contaminé. Le géant laitier sera entendu le 16 février prochain par un juge d'instruction du pôle santé du parquet de Paris dans l'affaire du lait contaminé à la salmonelle. Il pourrait être mis en examen pour notamment blessure involontaire. Et pour rappel, en décembre 2017, une cinquantaine d'enfants avaient été intoxiqués à la salmonelle et plus de 300 plaintes avaient été enregistrées au total. En sport, pour les stélistes, place à la Coupe de France. L'étoile lavalloise futsal fait son entrée dans la compétition ce soir pour les 32e de finale. L'équipe toujours leader de D1 se déplace à 19h ce soir au CPB Rennes, une équipe de R2 qui ne devrait donc logiquement pas trop poser de problème aux Lavallois. On devait retrouver Martine Hamelin, membre de la direction de l'UDCGT en Mayenne, qu'on va essayer de recontacter juste le temps de la petite pause musicale assurée par Smokey Joe and the Kid. On écoute Gone tout de suite.
Yeah. Ah. Oh baby, it's gonna get funky in here tonight. We're gonna send this one out to all you big-legged women. Oh, it's gonna get nasty, I believe it. It was early in the morning down in old New Orleans. Big-legged woman dropped me down to my knees. She was so fine that it blew my mind. I said, big-legged woman, can I have a little time?
I didn't realize who it could be. It was that old voodoo woman. Let me go.
happened to you. Don't take the woman home till you're sure the love's true.
And if a sexy woman's walking down the street, might be dead or voodoo woman Marie LaBouille. This is my story.
D'écouter Smokey Joe and the Kids dans l'agité du local, c'était Gone, bien sûr, issu de leur album Nasty Tricks, sorti il y a déjà quelques années, je vérifie l'année 2013 pour pas ne vous dire n'importe quoi. Comme promis juste avant cette pause musicale, nous allons être tout de suite en direct de la manifestation contre la réforme des retraites à Laval avec Martine Hamelin, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes membre de la direction de l'UDCGT en Mayenne. Et là, bah déjà, je voulais savoir si la participation est aussi forte qu'espérée, puisqu'on a vu quelques images sur les réseaux sociaux où il y avait beaucoup, beaucoup de monde à Laval. C'est le cas ?
Alors, c'est tout à fait le cas. Moi, j'ai compté approximativement, comme j'ai l'habitude de le faire. Là, je pense que j'évalue à plus de 6000. Donc, je crois qu'il y a très longtemps qu'on n'avait pas compté ça à Laval. Très, très longtemps.
Plus de 6000 personnes, oui, une participation très importante pour Laval, peut-être aussi qui s'explique par le fait que ce soit une intersyndicale et que le mot d'ordre est commun. Est-ce que ça fait longtemps justement que vous n'aviez pas connu ça à Laval ?
Je crois que les 8 syndicats ensemble à Laval, je crois qu'il y a très longtemps aussi, on cherchait à se rappeler ce matin, on n'a pas retrouvé parce que ça fait très longtemps effectivement. Donc c'est évident que l'intersyndicale fait que ça mobilise les gens parce qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il ne faut pas reculer l'âge de la retraite et qu'il faut que les gens aient une retraite correcte à un âge normal, même si on n'est peut-être pas tous d'accord sur l'âge, puisque à la CGT, ce qu'on revendique, c'est 60 ans.
Mais en tout cas, là, le mot d'ordre, c'est vraiment d'être contre ce que vous disiez, contre ce recul de l'âge de la retraite. Est-ce que parmi les personnes avec lesquelles vous avez pu discuter jusqu'à présent, est-ce qu'il y a des secteurs plus représentés ou peut-être des personnes qui manifestent, alors que là, elles manifestent peu d'habitude? Comment est-ce que vous décririez un petit peu ces manifestants à Laval?
Il y a vraiment de tout. Il y a les habitués des manifs, évidemment. Il y a des entreprises fortement représentées, par contre. Ce qu'à Laval, on ne voit pas toujours, parce qu'on a beaucoup d'entreprises du privé qui souvent font un peu la manifestation par délégation, quoi. Ils envoient un petit groupe. Là, il y avait des grosses délégations des entreprises, de la fonction publique aussi. Les enseignants sont très nombreux. Voilà. Et puis, plein de gens, quand même, ce matin, qui manifestait pour la première fois. Voilà. C'est vraiment un mélange de tout ça.
C'est aussi significatif, j'imagine, s'il y a justement ces personnes qui manifestent pour la première fois, vraiment d'une forte mobilisation contre cette réforme. Pourquoi, pour vous, c'est insupportable finalement que cette réforme elle puisse passer.
Mais je pense que à l'heure où on annonce des profits colossaux pour les actionnaires, pour les grandes entreprises, où les grosses fortunes elles augmentent tous les jours, et qu'on nous demande de travailler plus, c'est une aberration. Qu'en plus aujourd'hui on sait très bien que pour les anciens, passer 55 ans aujourd'hui, ça relève de l'épreuve de force de trouver du travail. Donc, quand on perd son travail après 55 ans, on est quasiment sûr de finir à la retraite avec des minima sociaux. Ça paraît complètement aberrant qu'on recule encore cet âge fatidique de la retraite.
Donc injuste effectivement pour les seniors qui auraient peut-être encore plus de mal à retrouver un emploi, injuste aussi selon les secteurs d'activité.
C'est injuste pour les seniors, c'est injuste pour les jeunes qui cherchent du boulot qu'on ne trouve pas, et alors qu'on veut prolonger la durée de travail de leurs aînés. Et puis et je pense en plus que cette réforme des retraites, elle tombe après tout un tas de mauvais coups du gouvernement. Des salaires qui n'augmentent pas, de la précarité qui se généralise. Elle tombe après tout ça et les gens, là, en ont vraiment ras-le-bol, je pense. Je pense qu'il y a un peu ça. Et les manifestants qui viennent là pour la première fois, ils sont un peu dans cet état d'esprit. Ça suffit, il y en a marre, il y en a trop. Voilà.
Ce qui peut expliquer en effet cette forte mobilisation et c'est... En tout cas, selon vos estimations, près de 6000 personnes à Laval. Donc un gros élan aussi. Quelle sera la suite justement ? Est-ce que vous avez déjà des pistes ? On a vu que le SNUDIFO 53 disait que c'était la première étape, mais qu'il ne comptait pas s'arrêter là. Comment est-ce que vous voyez les choses ?
Nous non plus, on ne s'arrêtera pas là. À la direction de DCGT, c'est évident qu'on essaiera de maintenir l'intersyndicale. Si tout le monde est d'accord, c'est-à-dire que, c'est simplement notre souhait, donc on n'annoncera pas de date avant d'avoir consulté tout le monde ce soir, mais c'est évident qu'on va essayer de poursuivre le mouvement le plus rapidement possible.
Donc à voir effectivement, là j'imagine que vous êtes dans le cortège, je vous laisse vous diriger peut-être vers la préfecture, où est-ce que vous êtes actuellement ?
Là, on est les derniers viennent de quitter la place de la Trémoille. C'était parti, les premiers sont partis à 11h45.
Et donc voilà. Là, effectivement, le cortège se poursuit. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps d'être en direct sur l'autre radio, Martine Hamelin. Merci beaucoup.
De rien, c'est moi qui vous remercie de nous avoir écoutés.
Pas de souci, merci. Et je rappelle donc que vous êtes membre de la direction de l'UDCGT en Mayenne. On va faire une petite pause en musique avant de parler justement de cette boxe 100% féminine à Saint-Berthevin. Justement, pause musicale avec Elisa Jo, Cheek to Cheek.
My heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dance cheek to cheek. Oh, heaven, I'm in heaven, and the kiss that hung about me through the week seems to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together, dance cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. My mama dance with me. We'll be right back.
Elisa Joe dans l'AJT du local sur l'autre radio, bien sûr. Et après ce reportage en direct, reportage même pas, en tout cas cette liaison en direct même du cortège des retraites, un tout autre sujet. On va parler boxe féminine aujourd'hui, et notamment boxe féminine avec ce créneau réservé aux femmes victimes de violences et aux profils plus fragiles. C'est une nouveauté de cette rentrée, depuis septembre 2022, proposée par le Palevski Club, le Palevski Box Club évidemment à Saint-Berthevin, et l'association Tout à Moto 153. Au total, le club compte 120 licenciés. Avec deux entraîneurs, et a décidé donc d'ouvrir ce créneau pour ce public en particulier tous les vendredis de 14h à 15h30 justement au sein de son club. Une nouveauté donc présentée par la présidente de l'association qui m'a déjà en fait bien fait une petite visite du club avec tous ses équipements et bien sûr au milieu le ring.
Et le ring qui a un gros ring quand même, il fait 6 mètres sur 6. C'est un gros modèle et puis il est sur parquet, donc effectivement, je trouve que c'est un bel objet en fait. Moi, je l'aime bien, il est vintage.
Alors, je m'appelle Marlène Crouillebois, j'ai 38 ans. Je suis gérante du magasin La Tête dans le cadre et accessoirement présidente de l'association Palevski Boxing Club, dont mon mari, Grégory Palevski, est l'entraîneur principal. C'est vraiment un club familial qu'on a monté tous les deux, c'est un club privé. Les locaux sont mis à disposition de l'association par le biais du magasin La Tête dans le cadre. Le bureau est géré par 6 personnes, membres de l'association, certains boxeurs, d'autres pas du tout. Moi, personnellement, je suis une toute petite boxeuse loisir, 15 ans de boxe, mais que de boxe loisir, uniquement pour le plaisir. C'est un sport que j'adore, c'est un sport que j'aime pratiquer. Contrairement à ce qu'on pense, je trouve que c'est pas un sport brutal. Je suis pourtant pas une grosse sportive, mais j'adore boxer parce que justement il y a une multitude de choses à faire en boxe. Il y a des approches diverses et variées, c'est hyper complet, et je pense que on peut vraiment trouver son truc dans la boxe, en fait, même quand on n'aime pas vraiment le sport.
Vous disiez, je crois que ça a été la salle, en tout cas, à 4 ans, ou à peine, c'est la quatrième année. Qu'est-ce qui vous a incité, justement, à ouvrir ce club de boxe il y a 3 ans maintenant ?
Eh bien, Grégory a toujours été entraîneur bénévole dans plusieurs clubs de boxe. Il est originaire de Nantes, donc il a un parcours personnel d'abord, où il a fait beaucoup de boxe française pendant plusieurs années. Il est passé à l'anglaise après. Il a développé en passant en boxeur amateur, mais en fait, il a très vite découvert un attrait pour l'entraînement et pour le fait de transmettre plus que de pratiquer lui-même. Mais il avait Il avait déjà fait pas mal de sports de combat, arts martiaux, pieds-points, kickboxing et donc savate, boxe française. Donc après, il a dû pratiquer, je crois, 8 ans en amateur, 5 ans peut-être même pas, 5 ans de boxe amateur, avant de se diriger vraiment, il se décidait à passer un prévôt d'entraîneur fédéral. À l'époque, c'était comme ça, ça l'est toujours d'ailleurs. Il a passé son prévôt de boxe et il s'est mis au service en fait de diverses associations de boxe en Mayenne et en Loire-Atlantique au tout départ. Il a eu vite envie de monter un club de boxe à, alors je vais pas dire à son image parce que c'est pas la question, plus en étant fidèle à l'image qu'il se fait lui de la boxe et de la façon dont elle doit être enseignée. Pourquoi, comment? Que chacun justement en tire le meilleur. Il est vraiment pas du tout élitiste en fait dans la boxe, il est pour la boxe pour tous. On n'est pas un club où on entraîne que des champions et les autres restent sur le banc à regarder comment boxent bien les autres. Non, il y a du temps pour tout le monde, il y a des créneaux pour tout le monde, il faut juste savoir placer les bonnes personnes ensemble. Évidemment, il adore la compétition, on a la chance d'avoir un boxeur professionnel cette année, donc il y a beaucoup à faire. Il est ravi, il adore les championnats avec ses boxeurs amateurs, participer aux ceintures, aux championnats de France. Mais c'est aussi quelqu'un qui a très vite tourné en fait, son enseignement de la boxe vers le sport adapté, l'handibox et la boxe pour tous. Il a passé un BPJEPS mention boxe il y a 2 ans, en montant tout ce projet autour du handicap des femmes et du sport adapté.
Je venais vous voir donc plus spécifiquement pour le créneau de boxe féminine qui a été lancé là cette saison. Mais c'est vrai que c'est intéressant, je trouve qu'il y a aussi cette dimension de handibox et de boxe pour tous finalement.
Absolument. La boxe est quand même un milieu assez masculin, même si on tend aujourd'hui quand même à beaucoup plus d'équité dans les clubs, dans les bureaux aussi associatifs. Nous, en ce qui nous concerne, on a une parité parfaite dans le bureau. Sur 6 membres, on est 3 hommes, 3 femmes. Au niveau des boxeurs, on est à cette année 48% de femmes, ce qui est un très bon score. L'année dernière, on avait plus de femmes que d'hommes. Donc, et ça, on en est très fiers. On est hyper contents de ça. On a su proposer des sessions qui sont aussi, je pense, plus à leur portée, où il y a un peu moins de testostérone et où on leur montre justement que la boxe, l'anxiété, le cardio, tout l'aspect vraiment santé et puis lâcher prise, hein, parce que les femmes, qu'on le veuille ou non, dans notre société, on a une place quand même où on est un peu compressé. La boxe, c'était un sport avec une vision hyper masculine. Et moi, je trouve ça intéressant de voir qu'aujourd'hui, et même vous pouvez le voir là, le cours enfant commence. Il y a des petites boxeuses en rose avec des queues de cheval et elles mettent la misère aux garçons sur certains exercices d'abdos. Enfin voilà, ça reste du physique, mais c'est vraiment un sport qui s'adapte parfaitement aux femmes et qui n'est pas du tout un sport d'hommes, contrairement à l'image très traditionnelle qu'on peut avoir de la boxe anglaise.
Quel était justement l'intérêt de créer vraiment spécifiquement un créneau pour les femmes et pour vraiment dédier à la boxe féminine?
C'est un premier pas en fait, cette création de créneau. Il a été créé avec l'association Tout en Moto 53 en partenariat avec une demande particulière qui était de prendre en charge de façon gratuite et anonyme des femmes victimes de violences. On a ouvert ce créneau pour ça. On garantit zéro présence masculine sur ce créneau. Parce que je vous le rappelle, au départ, ce n'est pas l'état d'esprit du club de boxe. Au contraire, on est vraiment inclusif, on est dans le sport pour tous. Mais là, on est vraiment dans des cas de figure qui sont très particuliers, où ce sont des femmes qui ont été parfois victimes plusieurs années, qui peuvent avoir perdu confiance en elles, qui peuvent avoir de gros dégâts psychologiques, pour qui il est parfois même difficile parfois d'accepter dans un premier temps d'avoir affaire à Greg lui-même pour des entraînements. Mais il est là aussi pour redonner confiance en l'image masculine également et pas la salir, leur donner confiance à elles, leur montrer qu'elles ne sont pas victimes et travailler par le sport surtout sur l'aspect psychologique en fait. Vraiment, ça permet une expulsion de l'angoisse chez certaines, notamment quand on commence des exercices de frappe au sac. Vous pouvez rencontrer des personnes qui vont être pétrifiées par le fait de donner un coup et d'autres qui, au contraire, vont donner un premier coup et ne plus pouvoir s'arrêter de frapper le sac. Et là, on sait que ça fonctionne, en fait. Donc, c'est très particulier comme séance parce qu'on ne sait jamais qui va être là à 14h, d'abord. C'est sans inscription. On a aussi un public de femmes victimes de handicap qui se sont greffées. On accueille en ce moment également quelqu'un qui fait de la musique à haut niveau, une femme musicienne qui a beaucoup d'angoisse hein, et qui a trouvé ce créneau-là en fait, pour venir déposer quelque chose ici, en tout cas. Voilà, je pense à une autre jeune femme accidentée de la route depuis 30 ans, qui est hémiplégique et qui retrouve en tout cas un peu de sourire quand elle passe à la porte du boxing et qu'elle vient pour faire sa séance avec d'autres femmes qui, elles aussi, ont eu du mal à venir. Et en fait, quand elles sont arrivées, une fois arrivées toutes ici, avec Greg, il se passe quelque chose de plutôt bienveillant. Donc c'est important, on laisse une porte ouverte. Ça ne marche pas forcément toujours, malheureusement. Ce n'est pas une solution toute trouvée, mais ça laisse déjà un endroit, une porte ouverte, un lieu où aller déposer quelque chose, autre qu'un psychologue, parce que parfois, le geste, c'est plus facile dans un premier temps aussi, en fonction du traumatisme vécu. Elles n'ont jamais fait de boxe avant. À 100%, là, pour le coup, on a zéro boxeuse. Elles découvrent le sport. Alors, la première réaction, généralement, est un peu particulière parce qu'en fait, elles viennent découvrir un sport qu'elles estiment violent alors qu'elles sortent elles-mêmes de la violence. C'est particulier comme situation. C'est là où il faut avoir beaucoup de pédagogie aussi. On a le soutien de la police municipale de Saint-Berthevin, avec qui on travaille aussi, et qui n'hésite pas à présenter ce créneau aux femmes qu'ils reçoivent en parallèle, ce qui nous aide aussi à les mettre un peu en confiance. Et puis de toute façon, une fois arrivées ici, voilà, c'est au contact de l'entraîneur où on va leur expliquer ce qu'il est possible de faire, et elles vont vite en fait ressentir les choses. Ce qu'il faut, c'est pas la peine d'expliquer, de trop s'expliquer sur ce qui va être fait, comment on le fait. Voilà, il faut réussir à les amener ici, les mettre en confiance. Après, comme je vous dis, ça marche ou ça marche pas, ça dépend des personnes. Mais le fait de proposer l'activité et de mettre en pratique très vite, quand ça fonctionne, en tout cas, elles le sentent tout de suite. Elles sont trois à venir depuis septembre. Depuis le premier cours, elles n'ont pas arrêté. Donc déjà, ça, c'est une victoire. C'est une petite victoire, mais c'en est une quand même. Alors, le créneau horaire, c'est tous les vendredis de 14h à 15h30. Il suffit de se présenter à la salle de boxe dès 14h avec 7 minutes de sport, une bouteille d'eau, une serviette. Greg vous accueille. Il y a, pour le premier cours, en fait, il n'y a aucune condition de participation. La porte est ouverte, réservée aux femmes, j'insiste bien là-dessus, évidemment. Pas forcément qu'à des femmes victimes. On a aussi, je vous le disais, des femmes qui peuvent être handicapées, des femmes qui font de la chimio, des femmes qui sont en rémission de cancer. Voilà, en tout cas, n'importe quelle femme peut se présenter tous les vendredis à 14h pour une séance d'1h30. Et ensuite, Greg peut aussi réorienter, parce qu'on a aussi des créneaux de boxe loisirs. Et parfois, il suffit de quelques séances de boxe le vendredi comme ça pour se greffer à un cours où il y a un peu plus de monde et vite glisser sur de la boxe loisir et de la boxe plaisir. On espère l'année prochaine pouvoir ouvrir un autre créneau 100% boxe féminine, mais cette fois-ci qui ne sera pas réservé aux femmes victimes, mais qui sera un créneau de boxe féminine, donc entre filles, avec des exercices qui sont plus spécifiques, on va dire, au corps des femmes. Et sortir de la tête des femmes et des hommes, mais bon, des femmes aussi, la boxe, ce n'est pas un sport violent, tout simplement. C'est un sport qui est hyper ultra positif, hein, qui est bon pour la santé, qui est bon pour plein de choses. Et il ne faut pas hésiter à venir nous rencontrer et à essayer, parce que parce qu'on peut tout à fait trouver son plaisir dans la boxe sans forcément se cogner dessus. Il y a tout un tas d'autres exercices. C'est sans aucune violence, c'est pas pour se faire mal. C'est quand on a envie uniquement, et en fait on peut tenir 15 ans de boxe sans forcément perdre de dents sur un ring.
Attention, et on accélère, allez plus fort. Allez, allez, encore 3, 2, 1.
Évidemment, là on vient d'entendre le cours des enfants, mais pour participer à ce créneau de boxe anglaise réservé pour les femmes, et notamment pour les femmes victimes de violences, eh bien rendez-vous le vendredi de 14h à 15h30, donc avec un prochain créneau demain, proposé demain donc. Tous les renseignements par mail à palevskiboxingclub@gmail.com ou bien par téléphone au 06 34 21 57 45. On va passer à un rendez-vous habituel ce jeudi, Pensée locale à travers la région Pays de la Loire, qui s'arrête aujourd'hui à l'Île-Dieu, avec deux enjeux sur la table, préserver la biodiversité et entretenir les paysages insulaires pour répondre aux besoins agricoles et aux enjeux écologiques. Et pour y répondre, est né en 2020 le projet Au fil de l'eau, porté par le comité de développement de l'agriculture de l'Île-Dieu. Écoutez ce reportage signé Neptune FM.
Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
Le projet Au fil de l'eau à l'Île-Dieu est porté depuis 2020 par le comité de développement de l'agriculture, Arthur Bouillet, chargé de mission.
Les enjeux sont de plusieurs ressorts. Tout d'abord, de mieux comprendre la ressource en eau sur l'Île-Dieu, notamment dans les zones agricoles et naturelles. Donc comprendre comment circule l'eau, où se trouve la ressource, etc. Et puis aussi de faire face à des problèmes de gestion de la ressource justement pour les agriculteurs. Donc l'idée c'est de trouver de nouvelles sources d'eau à travers par exemple la récupération des eaux de pluie ou bien le stockage de cette eau plus longtemps dans l'année. Par exemple là on est en train d'installer un équipement à la ferme de la bergerie pour capter l'eau de son toit de hangar pour qu'il le réinjecte dans sa réserve qui est déjà existante. Aujourd'hui, il avait une réserve qui était alimentée par les eaux de ruissellement et de forage principalement. Donc là, ça va être une nouvelle source d'approvisionnement de sa réserve. Et pour la ferme d'Émilie aussi, on est en train de créer avec la ferme, c'est partagé l'investissement, une nouvelle réserve d'eau aussi pour les cultures maraîchères attenantes à la ferme. Réserve d'eau alimentée par les eaux de pluie, je précise. Et aussi, là, c'est le projet plus global, donc de préservation et de restauration des réseaux hydrographiques. Donc on continue aujourd'hui à identifier ces réseaux et à les restaurer petit à petit. Donc les fossés qui ont été creusés auparavant par les anciens ou bien des fossés naturels. Et donc l'idée c'est de réhabiliter ces fossés qui sont pour la plupart tombés en friche. Et donc en fait le réseau qui auparavant on pense avait une cohérence et du coup faisait que l'eau circulait mieux entre les parcelles, etc. Aujourd'hui cette cohérence a été beaucoup entamée et du coup c'est essayer de retrouver par secteur cette cohérence afin que la terre soit mieux exploitable par les agriculteurs. Donc on a déjà depuis 2020 conduit plusieurs études, une étude avec des étudiants hydrogéologues de l'école Uni-Lassalle qui avaient donc fait des coupes souterraines pour identifier les ressources sur plusieurs coins de l'Île-Dieu en zone agricole. Ensuite on a fait une étude en 2021 avec la LPO de Vendée pour inventorier les mares sur l'ensemble de l'île de manière participative. Donc c'était un projet qui s'était fait avec des habitants de l'Île-Dieu, une vingtaine. Et puis on a fait une étude avec la chambre d'agriculture de la région Pays de la Loire pour diagnostiquer le fonctionnement de la gestion de l'eau par exploitation. Donc 8 exploitations avaient répondu présent et pour ensuite en fonction de ça déduire des préconisations pour mieux gérer cette eau de manière plus autonome. On a aussi fait des premiers travaux de réhabilitation. Donc en 2021 on s'est concentré sur des 3-4 lieux d'intérêt pour les agriculteurs et on a fait donc des restaurations de mares, la création d'une petite mare et la restauration de fossés. Les perspectives, ça va être déjà de continuer et poursuivre ce qu'on a entamé en 2020 et 2021, c'est-à-dire mieux continuer à identifier ces réseaux hydrographiques de manière plus globale, cette fois sur l'ensemble des zones agricoles et naturelles et non plus sectorisées comme on l'avait fait pour les deux premières années qui étaient un peu des tests, et d'avoir un vrai plan d'action global aussi pour la restauration de ces fossés, enfin de ces réseaux en général, et aussi en parallèle continuer à accompagner les agriculteurs sur des meilleurs systèmes de récupération et de stockage de l'eau. Alors ces petits travaux là que je viens de citer en fait se font au compte-goutte, hein, donc ils vont être achevés en 2022 voire 2023 pour les petits, Par contre, le grand plan d'action sur les réseaux hydrographiques, là, ce sera plus long. Donc, on peut, en fait, je pense que ce sera jamais vraiment fini. C'est des travaux qu'il faudra faire et entretenir. Donc, on va dire que le lancement a déjà commencé par petits bouts. Et après, il faudra continuer de manière plus importante et entretenir ces travaux-là, quoi. C'est un projet de long terme, quoi.
Montant du projet au fil de l'eau.
Si on prend l'ensemble là, de l'enveloppe globale pour la restauration des réseaux hydrographiques, on a fait une estimation à 280 000 euros d'investissement. Et après, à ça, on peut ajouter donc, toutes les études qui ont été faites ou qui vont être faites. Pour financer ce travail-là, on a plusieurs sources. On a des fonds du plan de relance avec la DRAF Pays de la Loire qui ont été mobilisés en 2021 et qui nous amènent jusqu'en 2024. Donc là, ça permet de participer en partie au projet. On a aussi levé des fonds avec la Fondation du patrimoine au titre donc du patrimoine naturel. Donc en fait, là, c'est parce que dans notre projet, on lie les enjeux de préservation de la biodiversité avec les enjeux de préservation d'une activité agricole et de restauration de réseaux. Et donc, je rajoute aussi comme source de financement la collecte avec la Fondation du patrimoine qu'on est en train de réaliser en ce moment même.
Toutes les informations du projet Au fil de l'eau sont consultables sur cda-ieu.com, rubrique Les projets et fondation-patrimoine.org, soutenir un projet. Laurent, Radio Neptune FM, Lille-Dieu.
C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Un reportage que vous pouvez réécouter comme les autres sur l'autreradio.fr. Et la semaine prochaine, sachez qu'on va revenir dans les terres, en l'occurrence plus précisément dans le Maine-et-Loire. C'est la fin de notre émission L'Agité du local pour ce jeudi 19 janvier. Restez bien sûr à l'écoute de l'autre radio avec à 19h les filles de Jean-Paul Sartre qui reviennent à l'émission à ne pas manquer, qui sera suivie à 21h de All Blues consacrée à la nuit du blues à Rennes ce samedi. Et nous, on revient demain toujours à 12h15 pour la dernière émission de la semaine. Je vous souhaite une très belle journée.